Cette portion de la parole de Dieu est enregistrée et distribuée par l'Église, grâce et vérité. Jésus promet à ses disciples, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Nous prions que vous soyez bénis et rendus libres par notre Seigneur Jésus-Christ au moyen de ce message. Bonne écoute!
Ce matin, c'était par invitation juste cette semaine, donc je suis très contente. En tout cas, je vais garder ça bref. Je sais que, en fait, on souligne la naissance de Jésus en hiver. En fin de compte, on ne sait pas quand il est né, mais c'est un bon moment de souligner sa naissance, sa vie et même sa mort. Et puis, mais le mot hiver, on le trouve juste une fois dans la Bible, et c'est dans l'Évangile de Jean, chapitre 10, où ça dit que c'était la fête de la dédicace, et c'était l'hiver. Et aujourd'hui, c'est la fête de la dédicace, et c'est pas mal l'hiver dehors, en tout cas. Donc, La fête de la dédicace, si je vous donne juste un petit arrière-plan de cela, parce que je vais vous dire que sans cette fête-là, sans les événements que cette fête souligne, la naissance de Jésus, la vie de Jésus, même la mort de Jésus n'aurait rien donné. Pourquoi je dis ça? Parce que Alexandre le Grand, petite histoire, a pris le contrôle de beaucoup de l'Europe, Moyen-Orient, tout ça. Et puis, un de ses généraux, qui était nommé Antiochus Épiphane, avait la main mise, avait le contrôle sur Israël pendant un temps, à peu près 200 ans avant Jésus-Christ. Et puis, il a interdit l'adoration de Dieu. Et puis, il a désacré le temple, il a fait tuer des cochons sur l'autel saint de Dieu et même ailleurs au pays. Et puis, il a interdit la lecture de la parole de Dieu, qui est la meilleure façon de vous séparer de Dieu, c'est d'être coupé de sa parole. Les Juifs ont désobéi à un certain nombre et puis on lit en cachette, on lit en cachette, mais ça c'est une autre histoire. Mais il y a eu une petite bande, et on connaît cette histoire, des livres historiques qui ne sont pas inspirés, mais qui sont basés sur des faits historiques, qui s'appellent des Maccabées. Il y avait une famille avec plusieurs fils qui se sont fâchés contre cette interdiction de pleinement adorer Dieu, parce que une fois que le statut de Zeus était érigé dans le temple et le porc, le sang du porc, tout était pourri, ruiné, et puis il a fait des choses plus horribles que ça. Et puis, donc, ils se sont révoltés, ils ont monté une guerre de guérilla contre les forces grecques, et puis au bout de plusieurs années, ils ont fini par gagner cette petite bande de personnes, quand même, qui a grandi un peu, mais contre une grande armée. C'est par la main de Dieu seulement. Et puis, il fallait nettoyer le temple. Donc, ils ont tout nettoyé, mais qu'est-ce que Salomon a fait le jour qu'il a dédié le tout premier temple? Il a dit, « Oh, il y a une des sept fêtes de Dieu qu'on n'a pas fêtée depuis si longtemps, on devrait le faire. » Et ça, c'est la fête des tabernacles. Et la fête des tabernacles, quand vous voyez dans la Bible, c'était la fête de l'Éternel. C'est toujours juste cette fête-là, juste celle-là. Parce que c'est la fête où il fallait se réjouir et être content et faire la party pendant 8 jours de temps. Donc, Salomon a dit, juste une fois, ça suffit pas, on va le faire 2 fois. Hein? Lui, il aimait faire les choses en grand, donc 16 jours, ils ont fêté ça. Mais à chaque année, les Juifs fêtent ça, c'est 8 jours. Donc, quand les Maccabées ont nettoyé tout le temple, ils ont décidé de redédier le temple, comme Salomon avait dédié le premier temple. Là, c'était le deuxième temple. de Zorobabel. Et puis, ils ont décidé de fêter la fête des tabernacles pendant 8 jours. Donc, il y a 8 chandelles ici. C'est pas du tout l'histoire que vous allez entendre dans le monde aujourd'hui. Le monde aujourd'hui va parler de Hanouka. Hanouka veut dire dédicace. Donc, c'était la fête de Hanouka, la fête de dédicace. Et puis, le monde parle d'une légende qui est née 800 ans plus tard, qui parle d'un petit flocon d'huile qui n'a pas brûlé un jour, mais qui a brûlé 8 jours. Mais ça, ça a été inventé 800 ans après les fêtes. Donc, ça n'a pas rapport. Donc, nous allumons ces chandelles-là pendant 8 jours pour nous rappeler comment... Et on allume juste le premier. Le premier en haut, avec une allumette ou quelque chose, ça s'appelle le shamash, qui veut dire serviteur. Donc, c'est juste le serviteur qui est au-dessus. Et le serviteur apporte la lumière aux autres. Intéressant comme idée. Et puis, c'est pas le même nombre de branches que le chandelier dans le Saint-Temple, parce qu'il y en avait 7 branches en tout. Puis ici, il y en a 9. Donc, je vais juste dire une des 3 prières qu'on dit. Je vais faire une en hébreu et ensuite le traduire en français. C'est des prières qu'on chante quand on allume les chandelles. Chacune des huit nuits qu'on souligne la fête de la dédicace. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'asa nisim l'avoteinu bayamim ohem bazman hazeh. Ça veut dire « Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu, qui a fait des grandes choses à l'époque de nos pères et qui a fait des prodiges pour nous. » Parce que c'est sûr que sans l'aide de Dieu, cette petite bande de Juifs n'aurait jamais gagné. Et Joanie a dit quelque chose de très intéressant tantôt, parce qu'elle a dit que Jésus nous tient dans sa main. Et quand se dit que c'était la fête de la dédicace, et c'était l'hiver, Jésus a dit que si nous sommes en lui, si nous sommes son brebis, personne ne peut nous ravir de sa main. C'est à ce moment-là qu'il a enseigné ça, et il a dit que personne ne peut nous ravir de la main du Père. Donc, nous sommes doublement serrés par les mains de Dieu, 2 fois. Donc, ça parle de notre sécurité que les Juifs à l'époque des Grecs n'avaient pas parce que c'était interdit d'adorer le vrai Dieu. Et pourquoi est-ce que je dis qu'on n'aurait pas eu Noël si ça n'avait pas été pour la dédicace? Parce que si le temple est resté tout souillé, ruiné, Jésus n'aurait pas pu accomplir toute la loi de Moïse pour nous et vivre la vie parfaite, comme par exemple venir 3 fois par année au temple pour adorer, comme la loi de Moïse disait. Parce que son sang sur la croix était uniquement s'il avait vécu une vie parfaite, selon la loi. Et la loi ne pouvait pas être accomplie avec un temple en ruine. Donc, puisque Dieu a pourvu que ce temple soit nettoyé et remis en fonction à peu près 200 ans, 165 ans avant la naissance de Jésus. Là, nous avons un sauveur que nous pouvons fêter, dont la naissance, la vie, la mort et la résurrection. Donc, c'est l'importance de cette fête-là. Et lors de la dédicace, pourquoi pas penser à qui nous sommes? Est-ce qu'on doit dédier nos vies d'une certaine façon? On a chanté un chant, et c'est mon dernier mot, que Dieu a envoyé un délivreur pour Israël. Israël. Il y a un homme d'Israël qui est venu pour être délivré il y a 2 mois à Montréal, où je suis, à notre congrégation qui s'appelle Max. Et Max a dédié sa vie d'une certaine façon hier, pendant la fête de la dédicace. Nous sommes à la 7e au septième jour, pas huit, mais c'est plus beau à huit, donc j'ai tout allumé. On a la grâce en Jésus, on peut faire ce qu'on veut, on est libre. Il s'est fait baptiser, qui est le tvila en hébreu. En français, on parle de baptême, en hébreu, c'est tvila. Donc, il a dédié sa vie. Donc, je vous invite à songer à votre relation avec Dieu aujourd'hui et être reconnaissant pour tout ce qu'il a fait pour préparer le chemin du Sauveur.
Alors, non, personne, je pense, ici planifie, dit, moi, là, mais le but de ma vie, là, c'est d'être malheureux. On veut être heureux. Et il y a une étude qui a été commencée en 1939, qui est la plus longue étude universitaire sur le bonheur. Les enfants peuvent aller à l'éducation chrétienne pour leur bonheur. on a pris une étude qui a commencé à l'Université Harvard il y a 80 ans, où on a suivi des dizaines et des dizaines de personnes, dont un de ceux-là était justement un des présidents américains, Franklin Graham, président Franklin. Et on est rendu qu'on étudie maintenant les petits-enfants de ces gens-là. Et on étudie leur vie, leur santé, comment ils ont vécu leur vie et tout ça. Et il y en a encore 19 en vie aujourd'hui qui sont au milieu des années 90, leur 9e décennie. Et cette étude-là parle d'une... dans la Gazette de Harvard, on parle de cette étude-là. Je vais allumer ma manette ici. Le titre de l'article qui parle de cette étude-là dit « Good genes are nice, but joy is better. » Les gènes, c'est bon, mais la joie, c'est meilleur. Et dans le sous-titre de cet article-là, c'est écrit « Une étude de Harvard de plus de 80 ans a prouvé qu'embrasser la vie communautaire nous aide à vivre plus vieux et plus heureux. » Intéressant. Dans cet article-là, on dit qu'il y a des résultats d'études qui disent que le niveau de satisfaction des relations d'une personne à 50 ans sont le meilleur prédicteur de leur santé physique future. C'est quelque chose quand même. La façon qu'ils apprécient leurs relations les uns aux autres. Comme je disais au début de mon message, le bonheur, on le cherche tous. Personne ici fait des plans pour être malheureux. Et puis, dans le temps de Noël, ben il y en a plusieurs qui vont être contents parce qu'on va voir nos familles, on va voir les gens que ça fait longtemps qu'on a vus. Puis, à cette heure, le monde est tellement réparti à cause du travail, la famille qui est éclatée beaucoup aussi, que pour plusieurs, c'est un moment de réjouissance, c'est un moment de joie. Mais pour d'autres, c'est un moment de solitude, c'est un moment de se rappeler. Mais c'est un moment aussi où que les familles sont divisées on est isolé. Il y a plusieurs personnes qui sont isolées à cause du décès, d'autres, comme je dis, à cause du travail. Aujourd'hui, je vais parler du bonheur qui dépend de la manière qu'on conçoit aussi notre relation avec le Créateur. Tout au long des chants que vous nous avez chantés, ça nous parle d'un Dieu, du Dieu qui vient unir le ciel et la terre, un Dieu qui vient nous mettre en relation avec lui. Et je vais explorer aujourd'hui que le bonheur dépend de la manière qu'on a une relation avec Dieu et avec la Bible et avec la communauté, avec les autres personnes. En début de mon message, je vais explorer la prophétie. Pourquoi? Parce que le christianisme est la religion dans le monde qui se démarque le plus de toutes les religions dans le monde concernant la prophétie. Or, il y a plus de 100 paroles qui ont été dites des centaines d'années avant que ça se produise pour annoncer la venue, la vie, la manière qui naîtrait, la vie qu'il vivrait, les choses qu'il ferait, de la mort qu'il mourrait presque. On ne dit pas tout à fait de la crucifixion, mais on parle d'un malheur à quelqu'un qui est pendu au bois. Et il y a toutes ces paroles-là, plus d'une centaine de prophéties qui se sont accomplies dans la personne et dans la venue de Jésus-Christ. Et Dieu dit par le prophète Ésaïe, « Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été écrit pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donne l'Écriture, nous possédions l'espérance. » Le titre de mon message aujourd'hui, c'est « Heureuse Marie ». Heureuse Marie. Marie, elle était remplie de joie quand elle a entendu qu'elle enfanterait le Messie. Et elle est allée voir sa cousine quand elle a appris que sa cousine aussi, qui n'était pas capable d'avoir d'enfant, elle allait enfanter Jean-Baptiste. Elle est allée dans les montagnes de Juda, puis elle est allée passer les derniers mois de grossesse chez sa cousine pour se supporter ensemble. Elle était heureuse, puis elle a commencé un cantique, puis elle a dit « Toutes les générations me diront bienheureuse. » Hein? Et c'est pour ça qu'il y a une prière qui est souvent dite « Bienheureuse Marie ». Parce que, justement, on est encore là plusieurs centaines d'années après, puis on la dit « Bienheureuse ». Aujourd'hui, vers la deuxième partie de mon message, on va parler pourquoi est-ce que Marie était heureuse. Dans le message, on va explorer aussi le bonheur qui était étroitement lié à la Bible et aux promesses que Dieu nous fait, qu'on peut se réjouir parce qu'on croit à un Dieu qui ne ment pas. Et on va regarder juste un petit vidéo avant que Julianne a transposé. C'est une vidéo qui vient du film The Bible en anglais. Et elle a pris un chant de Mario Pelcha, Savais-tu Marie? Puis ensuite, je vais revenir pour mon message. Ça arrive où c'est caché, puis ça nous a été révélé. C'est l'annonce donc d'un événement à venir. Dans Ésaïe 48, au verset 3, il nous est écrit: dès longtemps, j'ai fait des prédictions et elles sont sorties de ma bouche et je les ai publiées. Soudain, j'ai agi et elles se sont accomplies. Je t'ai annoncé dès longtemps ces choses, je te les ai déclarées avant qu'elles arrivassent. Donc, quand Jésus parlait de lui-même lorsqu'il était sur la terre, dans Matthieu 5, 17, il dit: « Je suis pas venu pour abolir la loi et les prophètes, je suis venu pour accomplir. » Il voulait accomplir ce qui était écrit de lui dans l'Ancien Testament. Après qu'il soit ressuscité, il a rencontré des disciples qui étaient tristes, puis les gars, ils disaient qu'ils étaient tristes parce que Jésus, qu'on pensait être le sauveur du monde, il est mort, puis là, c'est fini, puis là, ben, il était tout triste, puis il s'est écrit qu'il leur raconta, il leur expliqua toutes les paroles qui les concernaient dans les prophètes et dans la loi. Donc, Jésus prenait toutes les paroles qui avaient été dites d'avance, qui annonçaient sa personne. Puis, plus qu'il leur parlait, plus que leur cœur se réchauffait, ils réalisaient qu'il y a un gros, gros fondement prophétique qui annonçait d'avance la venue de Jésus. Puis, un des domaines qui est très riche de la prophétie biblique, ça se trouve à être les événements qui ont entouré sa naissance, la ville dans laquelle il naîtrait. Je veux dire, même les adversaires de Jésus, tu sais, Hérode était jaloux, lui-là, parce que lui, il avait reçu le surnom roi des Juifs, parce qu'il avait fait rebâtir, justement, il avait fait rebâtir le temple là, que Jackie nous a parlé tantôt. Et puis, on disait qu'il était le roi des Juifs. Tu sais, il y avait le slogan « le roi des Juifs ». Puis là, les mages, eux autres, ils arrivent. Puis ils disaient: « Ah, il est où le roi des Juifs qui vient de naître? » Quoi? Le roi des Juifs? Allez le trouver, que je puisse moi-même aller l'adorer. La scène de la nativité est réjouissante pour nous autres parce qu'un sauveur nous est né, mais c'est une scène assez dramatique où ce roi fou-là a fait tuer des enfants là pour essayer d'éliminer ce jeune-là, ce Jésus qui était à quelque part à Bethléem. On a fait tuer les enfants de 2 ans et moins. Puis l'adversaire de Jésus cherchait par la prophétie à savoir aussi qui était né, justement. Donc, c'est un domaine qui est très riche aussi sur sa mort et la raison de sa venue. Mais aujourd'hui, on va parler de sa mort. J'aimerais commencer justement, c'est une scène un petit peu de combat, cette scène où Jésus naît, puis on dirait qu'il y a quelqu'un qui ne veut pas qu'il naisse. Que déjà, dans les premières pages de la Bible, on voit la première promesse qui nous annonce le Messie, c'est une scène de combat. Dieu qui dit à l'ennemi: « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, et entre la semence, et ta semence et sa semence, et elle te brisera la tête, et toi, tu lui briseras le talon. » Dans ce passage-là, qui est tout de suite au début, quand ça a commencé déjà à mal tourner pour nous, une promesse nous est faite que de la femme viendrait un sauveur qui viendrait nous sauver de nos péchés. et qu'il y aurait un combat. Et j'ai mis un lion ici avec un serpent qui, je trouvais, était une belle statue, une belle image de cette promesse-là. Mais ce que je veux qu'on retienne ce matin, c'est qu'il y avait de la femme était pour naître le sauveur du monde. Et Ève, elle aurait compris, elle a entendu ça, cette parole-là, et lorsqu'elle a conçu son premier-né, qui s'appelait Caïn, elle a dit, dans le texte, dans l'original, c'est dit, « J'ai mis au monde un homme, l'Éternel. » Donc, elle a dit, tu sais, elle a un bébé, fait qu'elle dit, « Ah, ben, crime, je vais enfanter le sauveur du monde, tu sais. » Et elle disait, « J'ai enfanté un homme, l'Éternel. » Donc, Ève avait saisi qu'un sauveur naîtrait de la femme, mais elle avait juste pas saisi tout à fait la période de temps. Des centaines d'années devaient s'écouler, l'honneur pour une femme en Israël, c'était de pouvoir enfanter. Et souvent, la honte était associée au fait d'être stérile. Élisabeth, c'était justement, tu sais, la cousine de Marie, c'est comme, il y avait une honte, puis vous le lirez dans les textes, si vous lisez dans Luc chapitre 2, vous verrez qu'elle était comme gênée de ne pas pouvoir avoir d'enfant. Parce que pour une femme, c'était un honneur que de pouvoir assurer une progéniture et souhaiter que de nous puisse venir le Messie. Je vais vous lire dans Matthieu au chapitre 1, versets 20 à 21. Comme, là, c'est ici, c'est Joseph qui pense à rompre avec Marie parce qu'il a découvert qu'elle était enceinte. Et comme il y pensait, un ange du Seigneur lui apparut dans un rêve et dit, « Joseph, descendant de David, n'aie pas peur de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit. Elle mettra au monde un fils, tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Donc, si le mot même, et tu lui donneras le nom de Jésus. Et le mot Jésus, le nom Jésus veut dire sauveur, celui qui délivre, celui qui sauve, celui qui vient comme, en anglais, il va dire rescue, celui qui vient nous, le sauveteur, celui qui vient nous sauver de nos péchés. On va voir plus tard qu'est-ce que ça veut dire. Probablement que vous le savez aussi. Dans Galates 4:4, il nous est dit que ça s'est accompli, mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son fils né d'une femme, né sous la loi. Regardez ce passage-là attentivement. C'est quand même intéressant que Dieu, c'est pas écrit « et Jésus est né de Marie », mais c'est écrit « et Dieu envoya son fils, puis il est né d'une femme ». Ça, c'est comme, ça gratte la tête un petit peu. C'est important qu'on réfléchisse un petit peu ici. Jésus a pas commencé lorsqu'il est né de Marie. Dieu a envoyé son fils, puis il est né d'une femme quand les temps ont été accomplis. Donc, c'est Dieu qui s'est fait chair. C'est quelque chose. C'est pas juste un mythe ou quelque chose qui est accessoire dans la religion chrétienne. Je veux dire, autant dans la religion catholique que protestante, dans la religion chrétienne, c'est important que Jésus-Christ soit né d'une femme et qu'il soit Dieu fait homme. Et donc, je continue avec le verset 22 à 25 qui dit « Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. La Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils et on l'appellera Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. » Ça nous mène ça à une autre prophétie. Je ne sais pas si je l'avais, Emmanuel, à l'écran. Oui, c'est ça. Ça nous mène à la deuxième prophétie que je veux qu'on regarde ce matin. C'est qu'il est né pas simplement d'une femme, mais il est né d'une vierge. Dans Ésaïe, au chapitre 7, verset 14, c'était quelque chose qui était attendu en Israël. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Et le mot pour jeune fille que le prophète Ésaïe avait écrit entre 800 et 1000 ans avant Jésus-Christ, il y a deux mots pour jeune fille. Il y a le mot Bétula qui veut dire jeune fille vierge et il y a Alma qui veut dire une jeune fille vierge en âge de se marier. Alors c'est le deuxième mot qui est utilisé, Alma, pour parler de la jeune fille qui va enfanter. Donc ça sera pas n'importe quelle femme, c'est une femme qui aura pas eu de rapport sexuel avec un homme puis qui va être en âge de marier. On dit au temps de Jésus que l'âge, ça pouvait être à partir de 14 ans qu'une jeune femme pouvait être en âge de se marier. Donc, Marie est peut-être plus vieille, est peut-être plus jeune que ce qu'on voit sur la photo, mais ça devait être une vierge. Et lorsque la Septante, qui est une version qui a été écrite par 72 érudits du grec, qui étaient juifs, ils ont transformé l'Ancien Testament, qui est principalement en hébreu et en araméen, ils l'ont écrit en grec, et bien le mot qu'ils ont utilisé pour « jeune fille », c'est un mot grec qui veut aussi dire « une jeune fille vierge en âge de se marier ». Donc ça, c'est vraiment intéressant pour nous d'essayer de comprendre pourquoi c'est comme ça, pourquoi c'est pas juste Joseph, puis qu'est-ce que ça change pour nous. Tout ça, ça va nous conduire à notre troisième prophétie. Je vous amène dans Luc, chapitre 1, verset 26. Le sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, chez une vierge fiancée à un homme de la famille de David appelé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait que pouvait signifier une telle salutation, et l'ange lui dit, « N'aie pas peur, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu seras enceinte, tu mettras au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et il sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. Il règnera sur la famille de Jacob éternellement et son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je n'ai pas de relation avec aucun homme? » Et l'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre, et c'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Donc, dans le passage ici, on dit « Emmanuel », c'est un titre qui veut dire « Dieu est avec nous ». Donc, dans la tête de Marie, si elle connaissait un petit peu la prophétie, ici, ça nous est dit qu'il est le Fils de Dieu, Dieu avec nous. Hein? Dieu avec nous. Donc, il sera appelé Fils de Dieu. Intéressant. Jésus n'est pas devenu le Fils de Dieu après qu'il ait été conçu en Marie, mais il était le Fils de Dieu venant naître en Marie. Et on l'appellerait, c'est-à-dire qu'on l'appellerait justement ce qu'il est, le Fils de Dieu. Et ça nous mène donc à un autre, et à la dernière prophétie que je veux regarder avec vous ce matin, c'est que il est le Fils de Dieu, donc son origine remonte à l'éternité passée. Il est Dieu le Fils, et son origine sur la terre, si on peut dire, en tant que Dieu dans un homme, ben il remonte à la conception, lorsque le Tout-Puissant ici l'a couvert. Troisième prophétie et la dernière, et il est le Fils de Dieu. Dans le psaume 2 au verset 7, il est écrit, « Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon Fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. » Ce psaume-là est considéré par les érudits qui ont étudié l'Ancien Testament, les érudits juifs, comme étant un psaume messianique, où Christ, Jésus, parle à son Père. Connaissez-vous bien des gens qui naissent puis le jour de leur naissance, ils disent « Ah, tu m'as enfanté aujourd'hui. Hey, salut, tu m'as enfanté aujourd'hui. » Hein? C'est plutôt rare, hein? Et Jésus qui dit à son Père le jour de sa naissance « Hey, tu m'as enfanté aujourd'hui. » C'est quand même spécial. Le Sauveur, et ça c'est un présent prophétique, c'est-à-dire que quand c'est écrit, c'est sûr que c'est le psalmiste qui l'a écrit, mais il cite quelque chose qui va être dit ou quelque chose qui va être fait dans le futur, mais qui n'est pas encore connu de nous autres. Mais le jour de sa naissance, Jésus dit à son Père, « Tu m'as enfanté aujourd'hui. » Et ça nous est révélé par le psaume. Le Sauveur, il est conscient de son Père et dit au jour de sa naissance, « Tu m'as conçu aujourd'hui. » Donc, il est Dieu, Fils envoyé dans une vierge en Israël, Marie. Regardez bien le passage de Hébreux 10, encore une fois, qui parle au jour de sa naissance. Il dit, c'est pourquoi Christ entrant dans le monde, donc, il n'a pas été conçu Dieu, il n'a pas été conçu Fils de Dieu lorsqu'il est né dans le ventre de Marie, mais il est entré dans le monde. Et en entrant dans le monde, il dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Donc, il a dit ça quand il est entré dans le monde. Quand il est entré dans le monde, il dit, « Tu m'as formé un corps. » Alors, j'ai dit, « Voici, je viens dans le rouleau du livre qu'il est question de moi pour faire ta volonté, ô Dieu, ta volonté. » Encore une fois, on voit ici Jésus qui dit, au jour où ce qui est entré dans le monde, « Tu m'as formé un corps. » Donc, Jean Jean est spécial dans l'Évangile de Jean. Quand on lit l'Évangile de Jean, on s'aperçoit qu'il y a toujours l'expression « le Père m'a envoyé, le Père m'a envoyé ». Si vous savez d'où je suis sorti, les gens disaient « ben oui, mais c'est pas le fils de Marie puis de Joseph, ça ». Elle dit « si vous saviez d'où ce que je suis sorti », il dit « je retourne d'où ce que je viens, je m'en vais vous préparer une place, puis quand je vais revenir, je vais venir vous chercher pour vous prendre avec moi ». Et donc, Jésus, il parlait de son origine divine, du fait qu'il venait d'auprès du Père. Dans Jean 17, il prie « glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût ». Fait qu'il existait de toute éternité, il est le Dieu éternel qui est venu comme embarqué dans le temps. Il est embarqué dans notre monde, puis il est venu partager notre humanité. Puis Marie, ben, elle a été comme aux premières loges de tout ça. Je veux dire, elle a hébergé notre Seigneur, si on peut dire. Ben, Dieu, il y a plus que ça. Il a partagé l'humanité de Marie et la nôtre. Notre Dieu qui n'était pas capable de mourir, qui n'était pas à cause qu'il est éternel, il s'est abaissé comme un simple homme. Le livre des Hébreux va dire il s'est abaissé en dessous des anges. En dessous des hommes. Pourquoi? Ben, il est devenu serviteur des hommes. Il est venu pour servir et non pour être servi. Ça, c'est vraiment super. Puis, tu sais, à un moment donné, Marie elle-même, à un moment donné, est en voyage, puis Jésus a 12 ans, puis dans le fond, 3 jours après, elle l'a retrouvé. Dans le fond, il était 1 jour de route. Elle s'est rendu compte qu'il n'était pas avec la trolley de tous les autres enfants. Fait que là, ils ont réalisé ça, ils ont pris un jour pour revenir, puis là, ben, ils l'ont retrouvé dans la troisième journée. Puis ils ont dit, ton père et ta mère, on est inquiets. Puis je lui ai dit, mais je suis en train de m'occuper des affaires de mon père. Et là, tu sais, ça a dû avoir, comme tu sais, pour Marie, ça doit avoir fait comme, c'est quelque chose. Donc, Jésus est en train de faire le ministère, il est en train de parler du Seigneur, et il parlait de la Bible, tu sais, avec les docteurs, tu sais. Puis il disait, je m'occupe des affaires de mon père. Donc, on a vu né d'une femme, né d'une vierge, puis fils de Dieu. Et ça, ça avait été annoncé grandement dans la Bible. Sur une note un petit peu plus individuelle par rapport à Marie, j'aimerais dire, et là, j'ai pas le temps avec vous là de lire justement les divers passages de la Nativité. Donc, je veux juste comme arriver vers peut-être une conclure avec pourquoi est-ce que Marie, dans tout ça, était heureuse. Bien, Marie était heureuse, premièrement, parce qu'elle a trouvé la grâce de Dieu. Quand l'ange Gabriel il lui a dit, « Marie, ne crains point, car tu as trouvé grâce devant Dieu. » La grâce, ça veut dire une faveur qui est donnée à quelqu'un qui ne le mérite pas. Marie n'avait pas nécessairement fait quelque chose de plus que nous autres, tu sais, que les mamans qui sont ici. Mais son choix à Dieu s'est arrêté sur cette femme-là. Mais ça prenait des prérequis. Nous autres, on ne pourrait pas nécessairement, les mamans ici, parce qu'on n'est pas descendants d'Abraham. On n'a pas été répertoriés dans la ville de David. Il y a comme plusieurs raisons pourquoi nous, on ne pourrait pas l'être. Parce que Dieu avait promis que son fils naîtrait de la lignée de David et d'Abraham et que ça serait dans la ville de Bethléem. Donc là, ça resterait un petit peu les choix pareils. Mais Marie, t'as trouvé grâce aux yeux, tu sais. T'es béni, t'as une faveur. Ça dépend de celui qui la donne, pas de celui qui la reçoit. Mais t'es chanceuse, t'es bénie. Okay? Quand elle a prévenu sa cousine qu'elle était enceinte depuis 6 mois, le passage dit, dès qu'Élisabeth a entendu la salutation de Marie, l'enfant qui était dans Élisabeth tressaillit en son sein et elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle s'écria d'une voix forte, t'es bénie d'entre toutes les femmes et le fruit de ton sein est béni. Pourquoi est-ce que le fruit du sein de Marie était béni? Parce que c'était Dieu lui-même dans un homme. Je veux dire, il n'y avait pas plus béni que ça. Dans une femme, je veux dire. En tout cas, vous comprenez ce que je veux dire. Marie, lorsqu'elle parle de ce qui est en train d'y arriver, a dit qu'elle est une femme pour qui Dieu a fait de grandes choses. Elle ne dit pas, je suis une grande femme de Dieu pour qui j'ai fait plein de grandes choses. Elle dit, elle dit que Dieu a daigné regarder la bassesse de sa servante. Lorsqu'elle écrit elle écrit un cantique, puis elle dit que Dieu a daigné, il a regardé la bassesse de sa servante. Ça veut dire de l'humilité, c'est pas d'orgueil, je veux dire, c'est comme proche du sol. Il l'a regardé, puis il a daigné la regarder pour faire d'elle une grande chose. Et lorsqu'on lit le Cantique de Mary, on s'aperçoit qu'elle connaissait son Ancien Testament parce que le texte qu'elle écrit ressemble beaucoup à un cantique qu'une autre dame qui ne pouvait pas avoir d'enfant a écrit. C'était Anne. Anne qui avait enfanté Samuel. Et tu vois tout le concept de humilité, gloire, puis elle regarde comment qu'elle prend, comment Dieu prend ce qui est humble puis qu'il l'élève. Et donc, on voit que Marie a dit, « Mon âme exalte le Seigneur, mon esprit se réjouit en mon Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante, car voici désormais toutes les générations me diront bienheureuses. Pourquoi? Parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. » Marie a trouvé la grâce de Dieu. Elle a trouvé un Dieu qui était prêt à faire favorablement quelque chose envers nous. Et le chant qu'on a entendu ce matin, « En toi, je suis aimé. » Au-delà de mes fautes. Marie, elle a découvert la grâce de Dieu, qu'elle était aimée à cause de Dieu. Marie, je ne sais pas si je l'ai bien écrit, mais elle a eu la foi. Je ne savais pas s'il y avait un T, sinon enlevez-le. C'est un bonus pour Noël. Prends-tu un T? Bon, pas de T, tu vois. Je suis aimé malgré mes fautes. Élisabeth, elle a dit à Marie, « Heureuse celle qui a cru. » Cru à quoi? Aux promesses de Dieu. On a eu, dans le chant tantôt, Joanie, elle nous a dit qu'elle avait besoin, à un moment donné, de se rattacher aux promesses de Dieu pour avoir un sens à sa vie. Donc, « Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. » Elle était heureuse parce qu'elle croyait les promesses de Dieu. Et quand les bergers sont venus, puis ils ont commencé à se prosterner, puis on dit, puis les anges n'avaient pas dit aux bergers allez donc voir à Bethléem. Ils ont juste dit à Bethléem, en tout cas, le Sauveur est né là. Puis ils ont dit on va-tu voir. C'est comme que ça nous a été dit. Fait qu'ils sont allés comme voir, puis ils ont dit que c'était comme on nous l'avait dit. Puis c'est écrit que Marie, elle gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Marie a allé. Elle découvrait de plus en plus les promesses qui avaient été faites d'un sauveur. Elle réalisait que c'était elle qui allait le porter. Puis là, les autres commençaient à confirmer autour. Marie est heureuse parce qu'elle découvre plus sur lui par les autres. Là, elle voit les bergers arriver. Puis là, elle crie, « Hey, les mages qui arrivent! Hey, » savez-vous que les mages, quand ils ont amené les trésors, qui ont amené toutes sortes de richesses, c'est probablement ce qui lui aurait permis de vivre quelques années en Égypte en attendant que le roi fou meure. Parce qu'il y a eu des songes qui sont venus qui leur ont dit, regardez, ne retournez pas parce qu'il y a des gens qui veulent du mal. Les trésors étaient suffisants probablement pour survivre en Égypte quelques années. Là, elle s'en va au temple le huitième jour. Puis là, Siméon dit, moi, le Dieu m'avait promis que je ne mourrais pas avant de voir le Messie. Puis là, il dit, là, c'est fait. Là, je l'ai vu. Fait que je vais pouvoir partir en paix. Puis là, il y en a un autre qui est réveillé par le Saint-Esprit. Elle s'appelle Anne. C'était une personne veuve qui priait tout le temps dans le temple. Puis elle a comme su qu'il était là au temple le huitième jour pour la dédicace, la consécration. Fait qu'elle s'en vient là. Puis c'est écrit, elle se promenait partout. Puis elle parlait de Jésus à tout le monde. Fait que tu imagines, Marie, elle est là avec son petit bébé. Puis elle voit Siméon qui dit, « Enfin, mes yeux ont vu ton salut. » Puis là, elle qui se promène un peu partout, puis s'écrit, elle annonçait, elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance d'Israël. Marie découvre de plus en plus sur ce petit bébé au travers des autres. Élisabeth, quand elle arrive chez Élisabeth, Élisabeth a dit, « Comment tu fais? Pourquoi moi je recevrais la mère de mon Seigneur? » Quoi? Élisabeth a dit, comment ça tu viens me visiter? Je ne suis pas digne que tu me visites. C'est parce que tu es la mère de mon Seigneur. Elle appelle le bébé qui est dans son ventre son Seigneur. Elle sait que c'est son Dieu qui vient dans Marie. Puis elle appelle son maître et elle dit, je ne suis pas digne de recevoir la mère de mon Seigneur. Marie, c'est comme... Wow, c'est confirmé par les autres, elle apprend par les autres qui est Jésus-Christ. C'est vraiment super. Puis, j'arrive à la fin. Avez-vous faim? Ça va être bon. Bon. Elle est une des premières à partager sa victoire. Hein? Je vais juste restez là. J'ai oublié de mettre un acétate. Marie est heureuse parce qu'on l'a prévenue. On en veut à la vie du petit. Il y a des songes qui arrivent dans la nuit, ils ne repartaient pas par le même chemin. Là, les mages partent par un autre chemin. Puis là, allez-vous en Égypte. Puis il y a continuellement de la part de Dieu, comme Joseph qui dit, « Aie pas peur de prendre Marie pour ta femme. » Tu sais, qu'est-ce que les autres vont dire? Ils vont penser que vous avez fourniqué. Bon, ben c'est pas ça qui compte. Là. Ce qui compte, c'est que tu apprennes puis que tu la protèges. Puis dans le livre de Matthieu, on voit beaucoup Joseph, que Dieu apparaît à Joseph. Dans le livre de Luc, on voit plus le côté où ce que on voit les interactions de Marie avec Dieu. Mais c'est intéressant de voir qu'il y a il y a des objectifs différents pour les deux livres, mais ça amène vraiment plus une belle image. Mais on s'aperçoit que pour Marie, c'est vraiment pas un jeu, c'est vraiment pas agréable là, tout ce qui va se passer. Surtout c'est dans les 14-15 ans qu'ils sont obligés d'aller se faire. Là, le texte nous dit qu'ils doivent aller se faire enregistrer, être enceinte, ils n'ont pas de place pour eux, il faut qu'ils couchent dans une mangeoire, tu sais, il faut qu'elle accouche dans une, tu sais, ils vont mettre le bébé dans une mangeoire d'animaux, je veux dire, c'est comme, c'est pas facile. Ça doit vraiment pas être facile, puis pourtant, on voit souvent heureuse Marie, les gens diront qu'elle est bien heureuse. Je pense que Marie était heureuse parce que elle avait les promesses de Dieu avec elle, et elle savait que Dieu l'accompagnerait, l'aiderait à passer au travers, que Dieu pourvoirait, que Dieu protégerait aussi. Mais qu'elle serait aussi quelques années loin de la famille lorsqu'elle sera en Égypte et tout ça. Donc, elle avait les promesses de Dieu avec elle, puis elle s'attachait à ça. Ouais, là, c'est ça. Et ça, c'est mon dernier point. Elle était une des premières à partager sa victoire. On connaît tous des gens qui ont un fils dans du soccer ou dans un sport. Je pense à Victoria puis Daniel, par exemple. C'est Victoria qui est toujours là au match. Je veux dire, ouais, à Montréal, là, une fois, deux fois, des fois dans une semaine. Des fois quatre fois! Puis Victoria, c'est la première femme de son fils, tu sais. Je veux dire, quand ils vont à New York, des fois c'est Eric qui y va aussi quand ils vont aux États-Unis, mais on reçoit quoi? On voit sur Facebook des vidéos d'Eric ou de Victoria qui sont fiers de Daniel, qui est un athlète montant dans le domaine du soccer au Québec. Là, je pense qu'il joue dans l'équipe du Québec et tout. Là. Mais tu sais, maman est là aux pratiques, elle est là, tu sais, puis sa sœur aussi, Magali, qui s'investissent beaucoup. Mais Marie, là, on pourrait dire là que c'était dans le team Jesus, tu sais. Elle était dans l'équipe Jésus, tu sais. Mais l'affaire, c'est que quand on est fan d'une équipe ou des joueurs, quand l'équipe gagne, c'est mon équipe qui gagne. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Y a-t-il des fans de hockey ici? Non? Pas moi. Bon. Il y a des gens qui sont des fans d'un sport, puis ils vont dire, notre équipe a gagné, oui, mais pourquoi ton nom, il est jamais sur le billboard quand l'équipe gagne? C'est que tu n'as pas gagné, mais l'équipe à laquelle tu t'identifies a gagné. Puis Marie, elle est la première à partager la victoire de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand vous regardez, à la nativité, elle est là, pouf, là, on essaie de tuer l'enfant, ça va en Égypte. Elle est là toujours, maman, Team Jesus sont là avec Jésus. Joseph est là au moins jusqu'à l'âge de 12 ans, parce que ton père et ta mère, on te cherchait. Fait que ça, c'était à l'âge de 12 ans. Fait qu'il était un bout de temps, Joseph était là, mais à un moment donné, Joseph n'est plus là. Puis là, il y a les frères du Seigneur Jésus. Puis ses sœurs aussi. Il y avait quatre frères puis deux sœurs, au moins. Mais dans Jean 7, c'est écrit, elles autres, ils ne croyaient pas en lui. Mais elle était fan, pareil, elle suivait tout le temps. Puis elle allait, tu sais, on le voit qu'elle n'est pas trop loin en arrière. Mais on ne sait pas trop ce qu'elle se positionne par rapport à sa foi en Jésus-Christ. Mais dans les premières loges, puis on peut dire qu'il n'y a pas plus près que Marie pour partager l'humanité avec notre Seigneur. Marie, je veux dire, elle est la seule qui a partagé son humanité de cette façon-là. Puis, quand il meurt, tous les disciples prennent la poudre d'escampette, mais Marie, elle est là. Elle est là pour rester. Elle est dans le team Jesus. Mais, c'est juste Jésus qui meurt. Marie, elle a besoin, elle aussi, d'un sauveur. Puis, quand elle a écrit le cantique, après qu'elle a vu sa cousine Élisabeth, elle a dit, « Mon âme se réjouit en Dieu, mon sauveur. » Elle réalisait, Marie, qu'elle avait besoin, elle aussi, de ce sauveur-là. Lui avait besoin d'elle, parce qu'il a bien voulu, jeter des regards sur elle pour qu'elle puisse recevoir sa grâce. Elle était à la première loge pour partager son humanité. Elle était dans les derniers moments pour partager sa mort. Puis la promesse d'être heureuse ou d'être heureux sur la terre, Dieu ne nous a jamais dit qu'on serait toujours heureux. Moi, je pense que c'est une échelle de 0 à 10. Si le bonheur, c'est de posséder des biens matériels puis d'avoir une bonne réputation, je suis à 3,6 sur 10 à peu près. Je m'évalue pas parce que je pense pas que le but de ma vie, c'est de ramasser des biens, être populaire et être fameux dans le monde. Par contre, si le bonheur serait autre chose que juste comme à ramasser une retraite, être en santé dans notre corps, si, par exemple, le bonheur serait de savoir heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché, ben là, je suis plus heureux que tous les hommes. Puis Marie était au pied de la croix, puis elle, elle avait offert son corps, si on peut dire, pour partager son humanité, mais là, Christ offrait son corps pour que lui, elle, puisse partager sa vie éternelle. Et là, il s'est passé quelque chose à la croix, et comme Marie, on a besoin, nous autres aussi, de se poser la question, qu'est-ce qui s'est passé à cette croix-là, il y a 2000 ans? Et là, Marie puis nous autres, on est exactement à la même place. C'est qu'il y a une grande grâce qui nous a été faite. Alors que ça avait l'air d'un scénario vraiment, c'est, je veux dire, il a juste fait du bien, pourquoi est-ce qu'on l'élimine? Mais dans la prophétie, c'est écrit que malheur à celui qui est pendu au bois. Puis la prophétie disait qui serait comme un agneau mené à la boucherie, qui n'ouvrirait pas sa bouche pour se défendre, puis qui se laisserait tomber, puis qui serait amené au carnage. Puis le prophète Ésaïe, qui avait aussi prophétisé sa naissance, il avait prophétisé qu'il serait frappé, comme frappé de Dieu, blessé pour nos péchés, frappé pour nos iniquités. Le châtiment que nous méritions est tombé sur lui. Et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là à la croix? C'est un Jésus qui ne s'est pas défendu, qui s'est laissé vaincre, il s'est laissé mordre au talon. On pourrait dire ça. Comme l'image tantôt. Il te blessera le talon, mais toi, tu lui écraseras la tête. Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé? La progéniture d'Ève, qui est la progéniture de toutes les dames qui ont enfanté jusqu'au Messie, la progéniture de la femme a eu le talon blessé. Mais le serpent, l'accusateur, celui qui a fait entrer le péché dans le monde, il a été écrasé là à la croix. Et le livre de Colossiens dit que Jésus a triomphé de l'ennemi par la croix. Pourquoi? Parce que si tu es là, je t'accuse, ben je peux t'accuser autant que tu es coupable. À partir du moment où tes péchés sont mis, la conséquence des péchés sont mis sur lui, qu'est-ce que je peux faire? Comment est-ce que je peux encore t'accuser? Puisque ce qui t'accuse a été traité. Et donc, l'ennemi qui nous accusait a été écrasé cette journée-là. Et je finis avec cette note-là. Dans Actes 1, 14, c'est écrit, « Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes, Marie, mère de Jésus, et les frères de Jésus. » C'est intéressant. On a commencé le message en disant que le bonheur vient aussi de la communauté, la manière qu'on perçoit nos relations avec les autres. Dans le livre des Actes, qu'est-ce qu'on voit prendre forme? On voit l'Église prendre forme. Puis, c'est écrit que Dieu ajoutait à l'Église ceux qui étaient sauvés. Et dans le livre des Actes, qu'est-ce qu'on voit? On voit une Marie, puis les disciples, puis les frères de Jésus qui sont en train de prier pour recevoir le Saint-Esprit. Marie qui est là en attente, parce que Jésus avait dit, restez ici, priez, puis je vais vous envoyer le Saint-Esprit. Et Marie attendait avec les frères de Jésus. Là, elle avait offert sa vie pour lui, mais là, c'est lui qui avait offert sa vie pour elle. Et elle était là pour attendre le Saint-Esprit qui avait été promis. Et le bonheur, c'est aussi d'être dans une église, de partager notre foi ici ou ailleurs, de vous retrouver avec d'autres croyants pour continuer, comme Marie apprenait par les autres aussi, encore plus à propos de Jésus. Ben, ça, c'est notre bonheur à nous. Fait que, si vous êtes un visiteur aujourd'hui, nous sommes vraiment heureux. Vous êtes nos familles, vous êtes nos amis. Nous sommes vraiment heureux de prendre ce temps-là dans le message de Noël pour parler de Jésus-Christ, ce qu'il a fait. Et pour la majorité d'entre vous, c'est des choses que vous savez déjà. On l'a déjà entendu à petite école, tout ça. Mais peut-être, aujourd'hui, vous êtes là, Peut-être vous venez à l'église puis que c'était pas aussi clair par rapport à ce que Jésus a fait pour vous. Qu'est-ce que maintenant ça l'appelle à l'action ça. Comme tout cadeau, ça doit être déballé ou reçu. Puis l'offre qui vous est faite, c'est d'accepter le cadeau de Dieu. Marie a reçu Christ en elle. Après ça, elle a reçu Christ en elle. La même affaire, nous autres, aujourd'hui, on est placés devant toute cette histoire-là. Puis on a une promesse ici qui dit que le bonheur de l'homme vient que ses péchés ne leur sont pas imputés. Placé devant un message comme ça, qu'est-ce que j'ai comme choix? Qu'est-ce que j'ai comme choix? Ben, j'ai le choix de penser que c'est un conte. Tu sais, Jésus n'est d'une bière là. Ouh, ils en ont fumé du bon, eux autres. Peut-être que c'est ça. Ou c'est peut-être vrai, parce que dans le fond, il fallait, pour qu'un homme puisse mourir pour un coupable, il fallait qu'il soit sans faute. Le seul qui est sans faute, c'est Dieu. Hormis les anges, il y a les anges aussi qui n'ont pas chuté. Donc, soit Dieu, soit les anges. Mais Dieu ne peut pas mourir. Fait que là, Dieu ne peut pas rien faire. Il ne peut pas mourir pour les coupables. À moins que Dieu puisse être capable de mourir. Puis pour être capable de mourir, qu'est-ce qu'il fait? Il devient un homme. Et là, il peut prendre la place. Donc, ça prenait quelqu'un qui était capable de mourir puis qui était sans péché. Et Jésus-Christ est le candidat idéal. Alors, je suis placé devant ça. Puis là, qu'est-ce que j'ai à faire? Ben, justement, j'ai pas rien à faire. J'ai besoin de croire. Ce qu'on a fait nous mérite d'être condamnés. Ce qu'on croit nous permet d'être sauvés. Comme Marie, recevoir la grâce, qu'est-ce que ça voudrait dire dans cette situation-là? Bien, Seigneur, je reconnais que je suis pécheur. Je reconnais que toi, tu ne méritais pas d'être puni là. Que moi, je mérite d'être puni pour mes péchés. J'ai entendu que tu es mort sur la croix pour moi, pour être puni à ma place. Et j'accepte que tu aies fait ça pour moi. Et je t'invite dans mon cœur pour être mon sauveur et mon Dieu. Alors, si vous avez compris l'essence de ça, si jamais c'est quelque chose que vous voulez faire, eh bien, c'est une prière que je vous invite à faire dans le secret de votre maison, tout simplement. Sinon, peut-être que vous êtes juste vous dire, hey, wow, moi, je suis rentré ici à l'église un matin, puis moi, je pensais même pas qu'il y avait un Dieu, fait que je viens vraiment de loin. Tu t'en vas loin avec tes affaires. À ce moment-là, ce que je conseille à mes amis, c'est de lire la Bible, puis de commencer à aller voir, justement. Il y a des prophéties. J'ai dit au début que le livre se déclarait les choses qui étaient pour venir avant. C'est d'aller examiner ça et d'aller voir si ce qui est dit ici est vrai. Donc, merci à chacun et chacune d'être ici ce matin. Dieu vous aime profondément. Puis, joyeux temps des fêtes. Je vais inviter Marie-Ève qui va venir clôturer.
Ce message vous a fait du bien? Vous en voulez plus? L'Église Grâce et Vérité vous offre un site web sur lequel vous trouverez des messages en audio et vidéo et bien plus. Merci de nous honorer en les partageant sur les médias sociaux. Vous pouvez aussi laisser vos commentaires sur notre page Facebook ainsi que sur notre site web au www.graceetverite.org.